pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Cindy.
Bonjour Rose, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui comme chaque mardi à midi pour parler science avec différents invités.
Nous sommes le 8 octobre et aujourd'hui on va parler de la fête de la science qui a débuté vendredi dernier en Normandie.
La fête de la science, c'est 10 jours d'animation gratuite autour des sciences et à l'occasion de l'année de la mer, cette édition portera sur le milieu marin. Au campus 1 de l'Université de Caen, le village des sciences ouvrira ses portes au public du vendredi 11 au samedi 12 octobre.
Et pour en parler, nous serons avec Pauline Landel, coordinatrice sciences avec et pour la société à l'Université de Caen. Elle sera accompagnée de Nicolas Houlage, médiateur scientifique à cette même université.
Mais avant cela, c'est l'heure des infos sciences de la semaine. Des chercheurs ont réussi à cartographier le cerveau d'une mouche.
C'est la première fois que des scientifiques parviennent à modéliser un cerveau complexe. Celui de la mouche contient près de 140 000 neurones et 54 millions de synapses. Cet animal étant capable d'apprentissage, de prise de décision et d'interaction sociale, il paraissait jusque-là impossible de cartographier son cerveau.
Mais en quoi cette réussite est-elle importante ?
Eh bien parce qu'elle ouvre la voie à une compréhension plus avancée du fonctionnement du cerveau. Nous avons 60% de gènes en commun avec la mouche. Alors l'enjeu aujourd'hui serait d'utiliser cette carte pour mieux comprendre et traiter certains troubles neurologiques. En prudence, nous sommes encore loin d'une cartographie du cerveau humain. En mai dernier, une étude a dénombré 150 millions de synapses dans seulement 1 mm cube de cerveau humain.
Et alors, quel sera le prochain cerveau à être modélisé ?
Devrait être celui de la souris, un autre modèle intéressant en neurosciences et plus complexe que la mouche. Les futurs EPR de Gravelines seront construits sur un polder, ces vastes étendues endiguées et enséchées, une aberration pour l'ONG Greenpeace.
La centrale de Gravelines est déjà la plus puissante centrale nucléaire d'Europe de l'Ouest. Installée sur un territoire de polder, dans le delta de l'Aa, elle devrait bientôt compter deux nouveaux réacteurs, des EPR2, érigés sur une plateforme de 11 mètres de haut. Selon EDF, la construction devrait démarrer en 2026 pour une mise en service horizon 2040.
Mais alors que reproche Greenpeace à ce projet ?
L'association, qui s'appuie sur un des scénarios du GIEC, affirme que l'ensemble du site de la centrale pourrait se retrouver temporairement sous le niveau de la mer à compter de 2100. Une prise en compte relative et obsolète du dérèglement climatique par EDF selon l'ONG qui réclame l'abandon du projet. Mais de son côté, le fournisseur d'électricité estime que la hauteur de la plateforme retenue pour les réacteurs EPR2 permet une protection contre les inondations d'extrême. Pour l'heure, les consultations du débat public doivent se poursuivre jusqu'en janvier 2025. La sonde ERA est en route pour étudier un astéroïde dévié par la NASA.
Cela faisait des mois que l'Agence spatiale européenne travaillait à ce projet de défense majeur. La mission ERA a été lancée hier depuis la base de Cap Canaveral en Floride. Il y a deux ans, la NASA avait lancé la sonde DART pour dévier l'astéroïde Dimorphos de sa course initiale. Après 10 mois de voyage, le corps céleste situé à 11 millions de kilomètres de la Terre avait bel et bien changé sa trajectoire.
Mais quel est le lien entre cette collision et la mission ERA ?
Eh bien, l'objectif de la mission ERA, c'est justement d'étudier en détail les conséquences de cette collision. Ces informations pourraient ensuite jouer un rôle crucial dans la protection de la Terre face aux astéroïdes. Mais il faudra encore être patient, car la mission ERA n'aura atteint sa destination qu'à la fin de l'année 2026. Le continent blanc verdit, la péninsule antarctique se recouvre de végétation.
Les végétaux occupent 12 km² de la péninsule antarctique, alors qu'il y a 35 ans, ils représentaient moins d'un kilomètre carré. C'est le résultat de l'analyse d'images satellites d'une partie de l'Antarctique réalisée par les chercheurs britanniques et publiée dans la revue Nature. La végétation de l'Antarctique est principalement composée de mousse, mais elle pourrait constituer un sol fertile permettant le développement d'autres végétaux comme des plantes invasives.
Mais à quoi est due cette végétalisation ?
Selon l'étude, elle serait causée par la fonte des banquises et l'augmentation des températures. Depuis 1950, il y aurait eu une hausse de 3 degrés sur ce territoire, tandis que plusieurs vagues de chaleur ces dernières années auraient atteint les 39 degrés. Les neuroscientifiques auraient percé le secret de la jeune fille à la perle de Vermeer.
Les scientifiques de la société de recherche Noranzik ont mesuré l'effet de l'œuvre exposée à La Haye sur le cerveau de ceux qui la contemplent. Il semblerait que le spectateur se retrouve pris dans ce qu'ils appellent une boucle d'attention soutenue. Ce phénomène neurologique serait propre à la jeune fille à la perle.
Et en quoi consiste cette boucle d'attention soutenue ?
Le regard du spectateur est dans un premier temps attiré par l'œil de la jeune fille, il se déplace ensuite vers la bouche, puis vers la perle, avant de remonter de nouveau vers l'œil. Cette boucle d'attention expliquerait pourquoi on s'attarde plus longtemps sur ce tableau que sur les autres.
Et comment les scientifiques en sont venus à cette conclusion ?
Ils ont attaché un capteur oculaire et des électrodes autour des têtes des participants à l'étude pour suivre leurs activités cérébrales face à l'œuvre. Les neuroscientifiques ont également comparé la réaction du cerveau face au tableau original et face à une reproduction. L'émotion ressentie par le spectateur serait 10 fois plus forte lorsqu'il contemplait l'œuvre authentique. Et pour terminer ce flash coup d'œil dans le rétroviseur, il y a 9 ans, le 8 octobre a été désigné comme étant la journée internationale du poulpe.
Son objectif, aider la conservation de cet animal et éduquer le public sur son importance dans l'écosystème marin. Au début des années 2010, des organisations écologistes ont tiré la sonnette d'alarme sur la surpêche de certaines espèces de poulpes, menaçant leur survie. En 2015, il a donc été décidé d'instaurer cette journée dédiée qui se déroule chaque année le 8 octobre.
La France métropolitaine abrite aujourd'hui une douzaine d'espèces de poulpes pour une trentaine en Outre-mer.
Et oui, dont la plus connue, l'Octopus vulgaris. Et à l'occasion de cette journée internationale, je vous propose justement un petit point culture sur le poulpe. Ce céphalopode est reconnaissable à ses 8 bras et à ses 240 ventouses. Il est carnivore et sa morsure venimeuse entraîne la paralysie de ses proies. Mais cet animal, il est surtout connu pour son extrême sensibilité et sa grande intelligence. Ouvrir un bocal rempli de nourriture, imiter d'autres espèces ou encore utiliser des outils, de nombreuses études révèlent les capacités cognitives de ces céphalopodes. Selon certains chercheurs, les poulpes seraient aussi capables de distinguer des visages humains.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
La 33e édition de la Fête de la Science a commencé vendredi 4 octobre dernier avec des événements dans toute la France. En Normandie, c'est près de 281 opérations, plus de 200 structures mobilisées et 6 villages des sciences qui ouvrent leurs portes au public. L'un d'entre eux sera installé au campus 1 de l'Université de Caen les vendredis 11 et samedi 12 octobre.
Pour en parler, nous serons avec Pauline Landel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice sciences avec et pour la société à l'Université de Caen.
Et vous êtes accompagnée de Nicolas Houlage. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médiateur scientifique à l'Université de Caen. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer en quoi consiste ce village ?
Le village des sciences, eh bien, c'est une des opérations de médiation scientifique qui a lieu dans le cadre de la Fête nationale de la science, comme vous l'avez évoqué. Voilà, c'est une des plus importantes opérations du territoire, en tout cas en termes de mobilisation des publics, qui réunit différents formats de rencontres entre les chercheurs de l'université et les publics scolaires et familiales.
Et comment ça se passe, l'organisation d'un tel événement ?
C'est beaucoup de coordination, beaucoup de travail. On s'y prend quelques mois à l'avance. On répertorie les chercheurs souhaitant proposer un stand au village des sciences et on travaille avec eux quotidiennement pour récolter leurs besoins et essayer de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent proposer ce qu'ils ont à proposer au public et faire vivre au public la meilleure expérience possible.
C'est un grand branle-bas de combat parce que l'idée c'est aussi un peu d'essayer d'ouvrir les portes de l'université et des laboratoires au public qui ne sont pas forcément... qui n'ont pas forcément l'habitude d'être ouverts à des populations non scientifiques, on va dire. Donc c'est un grand challenge aussi d'essayer d'organiser tout ça et d'accueillir des publics dans des bonnes conditions, dans des lieux qui ne sont pas forcément faits pour. Donc cette année, en plus, c'est un peu nouveau parce que c'est sur le campus 1. Et je crois que c'est la première fois que ça arrive. En tout cas, les années passées, c'était au campus 2. Donc là, il y a aussi un peu une découverte de nouveaux lieux par les publics et les scolaires. Nicolas en parlera mieux que moi parce que c'est lui qui a la vision vraiment globale sur tout ça. Mais il y a plein de lieux que les publics vont pouvoir découvrir, comme l'Aula Magna, le nouveau bâtiment B.
C'est ça, le nouveau bâtiment B qui a été fini de construire assez récemment. Donc c'est l'occasion aussi au public de découvrir ce bâtiment tout neuf. On a plusieurs lieux de ce bâtiment qui vont être dédiés au village des sciences de Caen et là au lac Magna, comme a dit Pauline, qui est un très beau lieu historique de l'université de Caen que le public pourra découvrir lors de ce village des sciences.
Et juste pour ajouter aussi, donc il y a des laboratoires qui ouvrent vraiment leurs portes pour accueillir les familles, les scolaires. Donc on pourra aller expérimenter des choses à la paillasse. Découvrir le canal à houle au fond du campus 1 dans le laboratoire M2C, qui est un laboratoire spécialisé dans les recherches côtières et les vagues. Voilà, donc c'est aussi découvrir des espaces comme ça de travail des chercheurs et découvrir des métiers de la recherche dans des conditions un peu originales.
Et justement, vous nous parlez de cette nouveauté du Campus 1. Est-ce qu'il y a une raison particulière de ce choix d'avoir changé de lieu ?
Ben, c'est pour permettre au public de découvrir aussi des nouveaux espaces et puis aussi peut-être à des nouvelles équipes de se mobiliser. Le Campus 1, il y a aussi des laboratoires en sciences sociales qui vont ouvrir leurs portes cette année, notamment le CRAAM, qui est un laboratoire d'études historiques et archéologiques. Donc ça, on est très contents cette année de ça, parce que c'est vrai que souvent, la fête de la science, on imagine des sciences dites formelles, biophysiques, mais les sciences, c'est aussi l'histoire, l'archéo, les sciences sociales. Et donc, au CRAAM, il y aura toute une série d'ateliers pour découvrir les mondes marins tels qu'ils ont été traités, par exemple, dans les enluminures du Moyen-Âge, comment on se représentait toute la faune marine au Moyen-Âge, comment on décrivait des animaux qui étaient alors inconnus, comment on les dessinait et on imaginait du coup des monstres marins aussi. Voilà, découvrir les métiers de ces disciplines scientifiques. Être numismate, par exemple, c'est découvrir les trésors, en fait, c'est être chercheur sur les trésors, les monnaies anciennes. Donc c'est ça aussi, c'est ouvrir... permettre à d'autres disciplines scientifiques d'être présentes sur le village.
Et justement, vis-à-vis de ces autres disciplines scientifiques, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des différentes animations qui seront présentes dans ce village ?
On va avoir des animations sur la microbiologie, par exemple, par le laboratoire CBSA qui va parler des micro-organismes qui peuplent les océans, qui permettent sa vie, mais aussi qui permettront potentiellement de découvrir les antibiotiques de demain. Donc on a les ateliers du CRAAM dont vient de parler Pauline. On a le collectif Caboisette aussi qui vient présenter une exposition de leur parcours entre terre et mer sur 600 km et présenter une exposition entre l'art et la science. On a des visites de laboratoire, comme la visite du canal à houle. On a des conférences aussi. On a 5 conférences. On a samedi, on a la conférence « Voyage dans les méandres du cerveau » qui est faite par Denis Vivien, qui se fait dans le cadre du millénaire de Caen et qui parle du bien-être que peut apporter à toute personne la visite de musée, donc par l'étude cérébrale des personnes pendant des visites de musée. On a aussi la conférence « Il faut être givré pour traverser la Manche à la Manche à la nage », pardon, tenue par Benoît Mauvieux, qui va traiter de la physiologie humaine dans des conditions extrêmes. Donc là, en l'occurrence, par la traversée de la Manche à la nage, avec la présence d'une nageuse de l'extrême qui va être Marion Joffle.
Oui, voilà, l'idée en fait du Village des Sciences, c'est d'essayer de proposer une diversité de formats pour que tout le monde s'y retrouve, qu'on vienne en famille, qu'on vienne pour faire des jeux, découvrir la science en s'amusant, ou bien qu'on vienne pour découvrir vraiment un métier spécifique ou une thématique spécifique. Donc il y a des ateliers où on va pouvoir jouer, manipuler dans les laboratoires ou autres. Et puis il y a des conférences, le programme de conférences, il est vraiment intéressant. Alors vous retrouverez toutes les informations sur le site Fête de la Science Normandie. Mais effectivement, le samedi, entre 11h et 14h, il y a tout un cycle de conférences qui font de la vulgarisation scientifique sur les recherches menées à l'université en lien avec les océans, mais pas que, puisque Nicolas a notamment évoqué cette conférence sur le lien entre bien-être et art, qui est l'objet d'une étude importante menée à l'université en ce moment sur en neurophysiologie. Et donc, il y a ateliers, conférences, il y a une projection aussi de films le samedi à 17h, un film qui s'appelle Alta Villa et qui aborde aussi cette question de l'océan à travers un prisme particulier qui est celui de l'histoire et du lien qui existe entre la Normandie et la Sicile. Car le saviez-vous, il y a un lien, c'est-à-dire qu'il y a un héritage des Normands qui étaient partis à la conquête de l'Italie du Sud et de la Sicile. Donc il y a un âge d'or sur cette île où a cohabité l'islam, le judaïsme et chrétienté. Et c'est un film donc, qui met en lumière ce qui perdure de cet héritage normand dans la société sicilienne aujourd'hui. Donc le samedi à 17h. Et donc ateliers, conférences, mais aussi expositions et visites. Et voilà, on ne peut pas rentrer dans le détail de tous les ateliers, mais pour dire qu'on essaye de varier les formats pour que tout le monde trouve chaussure à son pied.
Et vous parliez, on va revenir dans quelques instants sur la thématique de Océan de Savoir, mais concrètement, comment est-ce que vous avez construit le programme? Est-ce que c'est des chercheurs qui étaient volontaires pour avoir des stands? Comment est-ce que vous avez construit tout ça, trouvé toutes ces personnes?
Et bien, comme on le disait tout à l'heure, donc la Fête de la Science, c'est un événement national. Donc, en fait, tout est... Enfin, pas tout, mais il y a une partie de l'organisation qui est la même dans toutes les régions et qui est proposée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche avec un appel à projet qui débute en mai, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, cet appel à projet, ben, il est connu de pas mal de chercheurs de l'université qui, depuis des années, s'investissent dans la médiation scientifique, le dialogue science-société et qui... Voilà, on a l'habitude de répondre et de proposer des animations. Il faut savoir qu'en Normandie, on a notamment un prix qui récompense des dispositifs de médiation scientifique créés par les équipes de recherche, qui s'appelle le prix Schlumberger. Et ce prix-là, il existe depuis des années et il a permis à beaucoup d'équipes de recherche de l'université de développer des dispositifs un peu rigolos, un peu ludiques pour parler de leurs recherches. Et ça, c'est vraiment un levier assez chouette pour le territoire et pour l'université, parce que du coup, ben, à la Fête de la Science, les équipes ont des jeux, des formats un petit peu originaux comme ça qui peuvent représenter d'année en année au public. Et puis après, ben, nous... on essaye aussi de susciter de nouvelles contributions des équipes de recherche en faisant un petit peu connaître le travail qu'on essaye de développer au sein du service culturel de la fac et de proposer à des nouveaux porteurs et des nouvelles porteuses de projets de proposer des choses pour l'édition à venir.
Et on est justement dans l'université. Est-ce qu'il y a des étudiants qui prennent part à cette organisation ou pas du tout?
Oui, tout à fait. Il y a les ateliers de la Corpo notamment. Donc la Corpo Science, c'est une association étudiante des étudiants et étudiantes en sciences dites dures de l'université qui, chaque année, propose plein d'animations plutôt ludiques autour de thèmes variés en sciences. Et puis, voilà, l'implication étudiante dans le village, c'est surtout ça, non, Nicolas?
Oui, c'est surtout ça, ou les étudiants qui nous aident aussi à la gestion... le jour même, qui vont nous aider à l'organisation auprès des porteurs de projets pour que tout se passe bien, aussi au niveau des responsables scolaires, parce que le vendredi est une journée dédiée aux scolaires, donc on a aussi les étudiants qui prennent pleinement part à l'organisation et sans qui on ne pourrait pas accueillir aussi bien qu'on accueille les porteurs de projets.
Oui, c'est vrai. Big up aux emplois étudiants qui vont nous aider à accueillir. Donc cette année... environ 400 scolaires, mais l'année dernière, c'était 800 scolaires sur le campus 2. Donc il faut de l'aide pour accueillir tout ce petit monde. Ouais.
Et d'ailleurs, petite question pratique, comment est-ce qu'on fait pour accéder à l'événement? Est-ce qu'il y a besoin de réserver, par exemple?
Non, alors la Fête de la Science, c'est vraiment un des critères au niveau national, c'est que ce soit gratuit. Tout est gratuit, donc effectivement, c'est important de le préciser. Merci pour la question. Ma foi, non, il n'y a pas de. Donc, c'est gratuit, et puis il n'y a pas d'inscription pour aucun des ateliers, je crois. Hein.
Non, pas d'inscription. Les seules inscriptions, c'est pour le vendredi pour le responsable scolaire, étant donné que cette journée est réservée aux scolaires de la maternelle au lycée. Et on ne peut pas accueillir, malheureusement, tous les scolaires qu'on aimerait accueillir. Mais le samedi, c'est une journée grand public, accessible à tout le monde, de 10h à 18h. Et tout le monde est le bienvenu, il n'y a pas de limite de public.
Voilà, vous pouvez vraiment venir de 10h à 18h en retenant peut-être que les conférences, il y en a une à 11h, une
à
14h.
Et la projection du film Alta Villa à 17h, en avant-première à l'université de Caen.
Il faut parler des scolaires. Est-ce que vous avez déjà un peu travaillé avec les professeurs? Est-ce que vous savez quel type de scolaire vous allez recevoir? De quel âge? De quelle école?
Eh bien, moi, j'ai un peu travaillé dessus, mais c'est plutôt mon collègue Alexis qui, je vais faire un big up au passage, qui s'occupe de ça. Mais on a vraiment un public allant de la primaire au lycée cette année. Et comme disait Pauline, environ 400 scolaires qui viennent, donc répartis sur ces niveaux scolaires.
Et sur, ce serait peut-être un peu exagéré de dire l'ensemble du territoire, parce que parce que on est aussi encore en train d'essayer de développer nos relations et voilà la mobilisation de public extra territoire de Caen stricto sensu quoi. Mais il y a quand même plusieurs établissements scolaires qui viennent de l'Orne et essentiellement et ça on est très content.
Comme on l'a dit, le thème cette année, c'est Océan de savoir. Dites-nous, pourquoi ce thème ?
Eh bien, donc c'est un thème qui a été décidé au niveau national. On est dans le cadre de l'année de la mer, le saviez-vous ? Mais voilà, l'océan, c'est 70% de la surface de notre planète et il demeure à 95% inconnu. Donc, à l'heure du réchauffement climatique, on sait de plus en plus son importance cruciale. Et donc, l'idée de mettre un focus là-dessus, c'est de mieux le faire connaître pour mieux le préserver. Et il y a vraiment une diversité énorme de recherches dans toutes les disciplines menées dessus.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Le Village des Sciences se tiendra ce vendredi et samedi à Caen. Et pour en parler, nous sommes toujours en compagnie de Pauline Landel, coordinatrice sciences avec et pour la société à l'Université de Caen, et Nicolas Houlage, médiateur scientifique à l'Université de Caen.
Pour rappel, la Fête de la Science est axée cette année sur les fonds marins. Cette thématique nous renvoie directement à la pollution des mers et océans de plus en plus alarmante. Comment conserver l'aspect festif de l'événement malgré la gravité du sujet ?
Eh bien, j'ai envie de dire, grâce à la diversité des recherches menées par nos chercheurs et chercheuses, par exemple, parce qu'il y a toute une façon de défendre les océans, et l'une d'entre elles, c'est de se rendre compte de la richesse de ces merveilles, et voilà, de s'émerveiller de tout ce qu'il y a dedans. Par exemple, je pense à une conférence de Bastien Lemaire, qui est postdoctorant au laboratoire Ethos, et qui va parler de l'intelligence des sèches. C'est un peu dur à dire comme titre parce qu'il y a « je » et « je » en même temps, mais « intelligence des sèches ». Et c'est des travaux qui montrent l'intelligence de la pieuvre et de la sèche, qui ne sont pas les mêmes animaux. Et notamment, il y a toute une série de travaux qui sont développés à l'université par plusieurs chercheurs sur la mémoire de ces animaux. Il y a une équipe qui a démontré que les sèches avaient une capacité de mémoire et donc de projection dans le temps. Et que ça, pour certains scientifiques, c'est vraiment un marqueur de l'intelligence humaine. Enfin, c'était considéré comme ça. Et donc, le retrouver chez ce type d'animaux-là, ça permet aussi d'avoir un nouveau rapport à l'animal empreint de compassion, parce qu'on retrouve des similarités cognitives entre eux et nous qui sont assez impressionnantes, quoi.
Moi, je pensais aussi au fait que c'est un moment qui sert aussi de prévention auprès du public et aussi d'espoir, notamment par l'étude du CBSA, l'atelier du CBSA qui s'intitule « Océan et microbes, s'allient pour offrir les médicaments de demain », dans lequel ils vont présenter un atelier démontrant que la mer pourrait être la source de nouveaux antibiotiques.
Puis si je peux ajouter aussi qu'on essaye, donc c'est bien la Fête de la Science et c'est le Village des Sciences, on essaye aussi dans la mesure du possible d'avoir une ambiance un peu sympa sur le village. Donc il y a la diversité des formats que j'évoquais tout à l'heure, mais il y a aussi, Nicolas l'a dit brièvement, mais on essaye aussi depuis plusieurs années de développer des propositions un peu art science. Donc, qui permettent d'aborder des thématiques scientifiques via des approches proposées par des artistes. Donc là, cette année, on accueille le collectif Caboisette, qui est un collectif de deux artistes plasticiennes qui vont nous proposer une petite visite insolite dans leur caravane. Il y aura une caravane sur le campus 1 et on pourra entrer dans leur petite bibliothèque des merveilles du monde, où elle propose une visite entre art et science des trésors des plages. Et puis, il y aura aussi de quoi se sustenter.
Des food trucks présents sur le campus et auxquels le public pourra s'adresser pour bien manger.
Et quels sont les enjeux de l'événement, en particulier vis-à-vis d'un public vivant en Normandie ?
C'est vrai qu'en Normandie, il y a les travaux en particulier du GIEC normand, qui sont donc développés par certains scientifiques de l'université. Donc ça, c'est très important. Et puis, il y a d'une diverse façon, tous les ateliers, enfin beaucoup d'ateliers parlent de problématiques normandes. J'évoquais tout à l'heure les ateliers du CRAM en archéologie, mais eux aussi, ils portent sur des sites archéologiques normands. Et donc, toute la richesse aussi de ce territoire ouvert historiquement sur l'océan depuis longtemps, quoi, permet de découvrir un petit peu autrement les problématiques côtières et littorales.
Ils ont notamment trois ateliers qui vont être étudier les manuscrits du Mont-Saint-Michel, donc qui vont permettre d'étudier les manuscrits qu'on n'a pas l'habitude de voir du Mont-Saint-Michel. On a les graffitis marins qui vont parler des graffitis laissés par les marins sur les murs des églises avant leur départ en traversée en mer. Et il y a aussi, je pensais à un troisième qui vient de me sortir de la tête, malheureusement, je suis désolé. On a notamment ces deux-là, il y en a un troisième qui m'a échappé, je suis désolé. Mais il y en a plusieurs ateliers qui vont parler de la thématique marine liée avec la Normandie. Si, le troisième, c'est Rollon, ou Rollo, tout dépend, qui va parler du coup de l'histoire de Rollo, donc le premier duc de Normandie, un exilé, qui va pouvoir apprendre cette histoire au public.
Et donc, vous l'avez dit, c'est l'année de la mer. Est-ce qu'il va y avoir d'autres événements organisés sur cette thématique à l'Université de Caen cette année ?
Pas que sache non plus, pour l'instant. C'est pas impossible ni inenvisageable, puisque pour le moment, on est... en tout cas, notre service est plus ou moins focus sur l'organisation de la fête de la science. Donc, pour l'instant, on n'en sait pas plus.
C'est vrai qu'il y a d'autres recherches liées aux océans ou bien aux cours maritimes qui sont menées à l'université et qui ne sont pas forcément présentes sur le village des sciences et qui feront l'objet d'autres focus et événements dans l'année à venir. Je pense notamment à un projet de recherche sur la pollution plastique des cours d'eau et des océans, voilà, qui sera l'objet d'autres événements dans l'année, notamment lors du Turfu 2025.
Et à l'issue de cet événement, comment on pourra suivre les recherches si on a été très intéressé par ce qu'on a vu ?
Eh bien, l'un des avantages du Village des Sciences, c'est qu'on vient vraiment rencontrer les chercheurs et les chercheuses, donc papoter avec eux au-dessus d'un stand. Donc une première façon, c'est peut-être de rentrer en contact direct avec eux et pourquoi pas de continuer la discussion et les échanges, y compris si c'est des métiers qui vous intéressent. Et puis après, toute l'actualité, notamment culturelle, de l'université et du service auquel on appartient, vise aussi à montrer comment se développent ces recherches-là. Donc, il faut rester attentif à l'agenda de l'université.
Merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions à l'occasion de la Fête de la Science. Pour rappel, le Village des Sciences se tiendra du 11 au 12 octobre au Campus 1 à l'Université de Caen. C'est gratuit et sans réservation. Bonne journée à vous.
Merci à vous, bonne journée.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant cela, c'est l'heure de l'agenda de la semaine. Demain, le Dôme vous propose une initiation à la futurologie de 14h à 17h. Technosolutionnisme, croissance verte ou encore effondrement, ces scénarios de notre futur nous invitent à débattre et à s'interroger sur le lien entre urbanisme et écologie. Lors de cet atelier participatif de prospective urbaine, vous apprendrez à élaborer des scénarios tangibles sur l'avenir de nos villes face aux défis environnementaux. C'est gratuit et accessible dès 15 ans. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site du Dôme.
À l'occasion de la 35e édition des semaines d'information sur la santé mentale, des animations sont organisées du 7 au 20 octobre 2024. Projections, débats, concerts, expositions et conférences autour de la thématique « En mouvement pour notre santé mentale » sont à retrouver. Les activités seront majoritairement gratuites ou à prix libre. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site semaine-santé-mentale.fr.
Normandie CEP et Défi Sport Solidaire organisent les 12 et 13 octobre une manifestation sportive de 24 heures au profit de la recherche sur la sclérose en plaques. Cette manifestation, elle est ouverte à tous, coureurs, marcheurs, familles. Les départs de course se feront à la Colline aux Oiseaux samedi, où un village sera accessible avec des stands d'information et des activités. Si vous souhaitez participer aux courses, pensez à vous inscrire auprès de l'association Normandie CEP. Tous les fonds récoltés serviront à financer la recherche sur la sclérose en plaques.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Émile à la technique. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, retrouvez Bastien pour la Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.